une l'Église, une famille. Alors, on va se poser la question, pardon, voilà, c'est parfait. On va se poser la question si le texte biblique et si Jésus nous confirme que l'Église est bien une famille. Je vous invite à lire avec moi un texte biblique dans l'Évangile selon Marc, Marc chapitre 3, les versets 7 à 35. Et si vous avez cette version à 1,50€, c'est la page 645. Marc 3, les versets 7 à 35. Évangile selon Marc, chapitre 3, les versets 7 à 35. Lisons. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem et de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Cette foule vint à lui car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être écrasé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulait, ils vinrent vers lui. Il en établit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergès, qui signifie « fils du tonnerre ». André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéite et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Les spécialistes de la loi, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Il a en lui Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même. S'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait « Il a un esprit impur. » Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit « Voici ta mère et tes frères et sont dehors et te cherchent. » Il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il promena les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui et dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Ah, ok. Nickel. Est-ce que Jésus de Nazareth a fondé une nouvelle famille ? Quand on parle de famille, il apparaît quelques paradoxes curieux, surtout dans notre société actuelle. On voit que les relations de couple se multiplient alors qu'elles durent de moins en moins longtemps. Et malgré ces difficultés, notre soif d'être en famille n'a pas cessé. Un théologien a même écrit « Le mot famille, couple et célibat disent presque tout de la trame de l'humanité. » Et ce qui est d'ailleurs fondamental, c'est l'intérêt, l'importance que revêt les relations familiales, notamment entre parents et enfants. C'est une relation, ce sont des relations tellement essentielles que pour beaucoup de parents, s'il arrivait un problème à leur enfant, ils ne s'en remettraient peut-être jamais. D'ailleurs, je me rappelle, un de mes clients, ancien client, quand j'étais expert comptable, il était retraité et il avait perdu un de ses enfants. Et il ne s'en était d'ailleurs jamais remis. Mais aussi, ce qui est particulièrement étonnant, c'est que maintenant, on n'hésite plus à appeler papa, le papa de sa copine qu'on vient d'avoir depuis 6 mois. Ou au beau-père. Même si ça fait 15 jours qu'on a débuté des relations avec elle. Même si les relations ne durent pas, on a besoin d'une famille. C'est étonnant parce que, à l'époque, on avait plutôt tendance à vouloir éviter sa belle famille plutôt que de s'en agréger une nouvelle, mais on voit qu'il y a une aspiration à vivre une vie de famille élargie. Est-ce que Jésus de Nazareth, le fondateur de la foi chrétienne, a-t-il fondé une nouvelle famille? Au-delà de l'intérêt pour la question, c'est aussi ce que le texte nous invite à regarder ensemble. Et à mon avis, il y répond. Marc, l'auteur de l'évangile que nous avons lu, nous a présenté la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et il est sans doute à Rome et il écrit en 55 après Jésus-Christ. Et c'est sans doute, il met par écrit le témoignage de l'apôtre Pierre, l'un des plus proches disciples de Jésus. Mais là, on fait face à quelque chose de particulièrement étonnant. On fait face à 2 surprises dans notre texte. Et on voit qu'il y a une division au sein des auditeurs de Jésus. 2 groupes sont en train d'apparaître. Ceux du dedans, ceux qui sont avec Jésus, et ceux qui sont du dehors, qui ne le sont pas. Alors ce texte nous pose une question à chacun. Il pose aussi une question aux auditeurs de Jésus. Qui sont ceux qui sont dedans? Et qui sont ceux qui sont dehors? Les apparences sont parfois trompeuses. D'ailleurs, ce texte contient un avertissement très fort à ceux qui se croient proches. Mais avant de rentrer dans la question que nous pose ce texte, Marc plante le décor. Marc 3, versets 7 à 12. Malgré les controverses, si vous aviez lu chapitre 2, vous auriez vu, et le rejet, chapitre 2, notamment par toute l'élite du peuple, Jésus continue de faire sensation. Le service d'ordre n'arrive même plus à suivre. On est obligé de le mettre à distance de la foule, verset 9, pour éviter qu'il soit écrasé par la foule. Pas juste quelques miracles en Galilée, par-ci, par-là, mais bien là, comme on aurait pu s'en douter au chapitre 1 et 2. Mais là, versets 7 et 8, on le voit. On vient de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires alentours, au-delà du Jourdain, même de la région de Tyr et Sidon. On se déplace d'à peu près 150 kilomètres à vol d'oiseau. Et on vole pas là, à cette période-là, hein, on marche. Hein. Donc ça prenait du temps. C'est comme si Jésus était présent à Toulouse, qu'il guérissait des personnes, qui venaient à lui, un footballeur avec des ligaments croisés abîmés, une personne qui vient d'un hôpital psychiatrique, en passant par une personne qui est atteinte d'un cancer. À cette nouvelle, je suis certain que les vols à destination de Toulouse seraient complets. Des mois à l'avance, même 2000 ans après ces événements. Jésus devait avoir un service d'ordre sans précédent pour pouvoir agir et pour éviter de se faire écraser aujourd'hui. Tous reconnaissent son autorité, sa puissance. Même les démons, verset 11. Les esprits, ceux dont on parle, c'est un peu les esprits dont on parle, vous savez, dans les émissions paranormales, là, sont obligés de reconnaître sa divinité. D'ailleurs, ils ne font rien de moins écho, si vous regardez Marc au chapitre 1, 11, à la voix de Dieu lui-même. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus continue d'agir de la même manière qu'au départ de son ministère. À part que, verset 6 du chapitre 3, les pharisiens ont décidé de s'unir pour le faire mourir. Face à cette foule, certains sont proches de Jésus, d'autres plus loin. Mais quelle est donc la première surprise à propos de cette famille? La surprise numéro 1, c'est que ceux du dedans sont dehors. Jésus est rejeté par sa propre famille biologique et nationale. D'ailleurs, ce texte tord déjà le cou à une idée reçue, versets 23 et verset 31, que Jésus n'avait pas de frère. Mais la première surprise est là. Ceux qui se croient dedans sont en fait dehors. On voit que Jésus est rejeté par sa propre famille. Commençons par la famille nationale. On le voit au verset 22, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem. Là, c'est pas le clergé du coin, là, les petits curés ou les pasteurs du coin. Non, c'est dans le judaïsme de l'époque, c'est la commission d'enquête parlementaire qui se déplace. Les big boss de la religion juive. Ils font 200 kilomètres parce que Jésus nécessite le déplacement. Et leur conclusion, elle est sans appel. Il est Belzébul. Il chasse des démons car il est le prince des démons. Style, j'ai un ami, un jour les témoins de Jéhovah sont venus chez lui et comme ils n'arrivaient pas à le convaincre, ils ont fait débouler les big boss. Verdict, on repassera plus chez lui. Il connaît trop bien sa Bible. Ici, le verdict, dans notre texte, Jésus, c'est un démoniaque. D'ailleurs, leur analyse est assez intéressante. Devant une telle popularité, devant le témoignage de centaines de personnes, personne à l'époque n'aurait pu nier la réalité des miracles. Cela aurait été grotesque. Cela aurait été nier l'évidence. Et si ces miracles n'avaient pas eu lieu, soyez certains que les pharisiens, les plus grands opposants à Jésus, auraient été les premiers à dire que c'était de la foutaise. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. D'ailleurs, parfois, j'ai l'impression qu'en regardant le texte avec 21 siècles de décalage, on est souvent pris d'un peu de condescendance à l'égard de nos premiers auditeurs. Mais Marc s'adresse à ces lecteurs qui sont à 30 ans des événements. Ils ont peut-être même assisté à certains d'entre eux. Ces responsables, cette commission d'enquête, ne conteste pas la réalité des miracles. C'était impossible. Mais de manière plus subtile, elle conteste la provenance. Miracle, il y a, mais c'est grâce à Satan et non à Dieu. Et l'argument aurait pu être recevable. Mais Jésus, au moyen d'une parabole, nous montre comment l'argumentation est irrecevable, versets 23 et 24. C'est absurde de suggérer que Satan se bat contre Satan. C'est un peu comme la France qui est en guerre contre le terrorisme et une cellule antiterroriste, un agent infiltré, a infiltré le milieu terroriste et ils viennent être accusés de terrorisme. On voit bien que c'est incohérent. Justement, cette personne lutte contre le terrorisme. On ne voit pas une cellule antiterroriste comme un terroriste. La guerre civile en pleine guerre est destructrice, on le sait. Elle nuit à la bataille principale. Mais si ce n'est pas Satan qui est derrière, verset 27, alors cette personne doit être particulièrement puissante. Ces exorcismes sont à l'évidence qu'il est en train de lier l'homme fort, Satan. Jésus détruit l'œuvre du diable, l'œuvre du mal, c'est l'œuvre même de sa vie. Elle a d'ailleurs commencé au chapitre 1, et même les démons ont dit, « Viens-tu pour nous perdre ?» Verset chapitre 1, verset 24. La maison de l'homme fort, le prince de ce monde, le diable, est en train d'être pillé. C'en est fini de l'homme fort. J.B. Jean-Baptiste avait annoncé la venue d'un plus grand, d'un plus fort, chapitre 1. Plus fort que lui, mais aussi plus fort que cet homme fort, plus fort que le mal. Jésus conclut sa défense face à ses responsables de la commission d'enquête par un avertissement très fort au verset 29. Celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ceux qui sont témoins de la venue du règne bienveillant de Dieu et que Jésus a annoncé au chapitre 1, verset 15, et qu'il appelle mal, sont condamnés. Exactement de la même manière aujourd'hui, tous ceux qui comprennent le message de la foi chrétienne et qui disent que c'est un poison, un danger pour l'humanité, sont comme ces pharisiens. Ils s'excluent eux-mêmes. Alors que Jésus est venu apporter la paix, qu'il est venu lutter contre le mal sous toutes ses formes. Par contre, si toi tu as peur d'avoir commis ce péché, le verset 28 nous le dit. Il ne s'agit pas juste d'une question de grossièreté, une question de parole. Tout sera pardonné aux hommes, même leurs blasphèmes, même leurs paroles. Ici, ce n'est pas le langage le problème, mais c'est l'attitude, la politique de l'autruche, la façon de tordre la réalité à notre avantage. On sait très bien parfois que l'on a gros à perdre, à accepter de suivre le Christ. C'est impardonnable, pour une raison simple. Il n'y a qu'une seule personne qui pardonne. Et ça, c'est le chapitre 2 qui nous l'a dit. Marc a déjà démontré que celui qui pardonne, on se rappelle la scène avec le paralytique, ou peut-être vous n'en rappelez pas, mais moi je vous la rappelle, c'est un groupe de personnes qui amène un paralytique, et il l'amène par un toit, parce qu'il y a tellement de personnes. Et la seule chose que Jésus a à dire, c'est « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Alors on se demande ce que le paralytique a pu bien vouloir dire, mais c'est pas pour ça que je suis venu. Mais Jésus lui dit « Mon péché, tes péchés sont pardonnés ». Quant à Lévi, un autre nom pour Matthieu, aussi dans l'Évangile, qui était agent délégué de l'administration fiscale romaine pour la perception des impôts, avait suivi Jésus et l'avait invité chez lui. Et les pharisiens lui avaient dit « Mais comment tu peux manger avec des gens comme ça ?» Et Jésus avait répondu « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. » Jésus est venu pardonner et réconcilier les hommes avec Dieu. Si nous le rejetons, nous dit notre texte, nous sommes impardonnables. Idem pour un malade qui irait chez son médecin, quel espoir pour lui qu'il est atteint d'un cancer et qu'il refuserait le traitement de son médecin et qu'il accuserait de vouloir l'assassiner. Sa famille nationale, les responsables juifs, refuse son pardon, son pouvoir, son salut. Et refuse de voir Jésus comme leur sauveur, celui qui pardonne. Et en plus, il lui attribue le mal au lieu du bien. Et il s'exclut, de facto, de sa famille. Et continuons. Maintenant, par la famille biologique. D'habitude, si vous cherchez une appréciation objective vous concernant, en fait, c'est moi, c'est comme ça, je vais voir maman. Même si vous avez perdu tous vos soutiens, vous êtes sûr qu'auprès de votre mère, vous aurez une appréciation objective. Un soutien indéfectible. jamais vu un regard négatif sur la progéniture. Mais ici, c'est différent. La réaction de sa famille, verset 21, est étonnante. Il débloque. Il va trop loin. Peut-être la réaction de votre famille, si un jour vous avez décidé de suivre Christ et que votre famille ne connaît pas encore Dieu, vous avez en Jésus un bon précédent. Le rejet est moins violent. D'ailleurs, il le rejette un peu plus subtilement. La mère de Jésus, ses frères, non seulement ils sont plus ordinaires, mais ils sont aussi plus aimables. Ils n'ont pas dit qu'il était possédé. Ils ont juste dit penser qu'il allait trop loin. Mais Jésus les regroupe avec ceux qui précèdent. J'avoue, c'est chaud. C'est choquant. Hein? Mais rejeter gentiment Jésus, et respectablement, c'est aussi le rejeter. L'avertissement, ceux qui auraient dû être dedans, sa famille, son peuple, se retrouvent dehors. Et on n'est pas intégré dans sa famille, dans la famille de Jésus seulement parce qu'on a l'étiquette de chrétien, ou parce que mes parents étaient chrétiens, ou mes arrière-grands-parents, ou parce que j'ai fait des études de théologie, ou parce que je suis pasteur, curé, ou je ne sais quoi d'autre. Il y a un drame dans cette scène. Ce que l'on aurait pensé être dedans sont en fait dehors, exclus de la famille de Jésus. Sa famille l'attend à l'extérieur, mais Jésus se tourne vers ceux qui sont autour de lui. Et là, la surprise numéro 2. Ceux du dehors sont dedans. Jésus fonde un nouveau peuple et une nouvelle famille. Au moment même où sa famille, sa nation le rejette, il fait deux choses. Il fonde une nouvelle nation. Versets 13 à 19, et une nouvelle famille, versets 33 à 35. Comment ? Face à la réaction populaire, il aurait pu annoncer sa candidature pour être le nouveau roi d'Israël ou la nouvelle présidentielle, mais non, il se retire pour prier. Jésus n'était pas obsédé par la popularité ou la reconnaissance, il se retire. Il part seul pour prier son père. Comme en 1, 35 ou 39 au chapitre 1, tout le monde le cherchait et lui prépare son prochain coup. Il appelle 12 inconnus. On voit qu'il les avait déjà appelés au chapitre 1, verset 17. Et là, il les appelle à sortir de la foule des curieux pour le rejoindre. Au moment où même les responsables l'ont rejeté, les plus éminents responsables juifs, à ce moment-là, tout comme Dieu a instauré les 12 tribus en Israël sur le mont Sinaï, il appelle 12 apôtres, sa nouvelle nation, le nouveau peuple de Dieu, ses nouveaux dirigeants. Et pour les lecteurs de Marc, ils étaient bien au courant. 30 ans après les faits, les lecteurs de Marc, qui étaient à Rome, connaissaient bien ces 12 individus paumés de Palestine au début, mais qui n'étaient plus désormais des paysans. Leaders nouveaux d'un nouveau mouvement mondial qui avait progressé dans tout l'Empire romain. Non, ils étaient bien connus des électeurs. D'ailleurs, cette nouvelle famille n'est pas invitée à se replier sur elle-même, se concentrer sur des débats internes, mais bien à accomplir les belles promesses de l'Ancien Testament, être une bénédiction pour tous les peuples. Ce que Dieu avait déjà annoncé à Abraham en Genèse 12, avec cette portée immense, je t'ai choisi pour porter une bénédiction sur toutes les nations. Ce matin, Jésus nous appelle à la même chose. Vous et moi, il nous appelle à sortir de la foule des curieux, pour rejoindre Christ. Et quelles sont les caractéristiques fondamentales pour le rejoindre? Verset 14, être avec lui. Être avec lui, avec Jésus. La qualification, elle est un peu surprenante. C'est pas agir, c'est pas faire partie d'une association qui aide je ne sais qui, je ne sais quoi, même si Jésus aurait pu le faire. C'est pas non plus servir, même si c'est bien de servir dans telle ou telle activité. C'est pas être formé dans un institut de théologie. C'est bien aussi de mieux le connaître, mais c'est pas être avec lui, évoluer avec lui, dans son intimité, dans une réelle connaissance personnelle de Jésus. Et ça, c'est possible seulement en cherchant à le connaître par sa parole au travers de la Bible. D'une lecture méditée du Nouveau Testament. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'un temps où vous désirez mieux connaître Jésus, ben, il y aura des gens qui seront prêts à, dans cette église, à vous faire découvrir Marc ou d'autres choses encore. Et ça sera peut-être différent du dernier Figaro, Jésus-Christ inconnu. La deuxième caractéristique, après être avec lui, c'est être aussi envoyé, verset 14. Les lecteurs de Marc étaient bien au courant. Ils avaient entendu l'évangile de la grâce. Et c'est impossible pour des disciples de rester entre eux, de rester sur des disputes internes, c'est impossible. Ils voulaient partager, ils ne voulaient pas garder pour soi cette nouvelle. Non, la nouvelle nation, les nouveaux disciples de Jésus ne sont pas restés longtemps sans parler. La preuve, l'évangile de Jésus-Christ a atteint Rome, alors que l'on est seulement en 55 après Jésus-Christ. Parce que les lecteurs de Marc étaient déjà des Romains. Voilà ce qui caractérise les nouveaux responsables de la famille. Les anciens responsables l'avaient rejeté, les nouveaux étaient restés avec lui. Avait proclamé la nouvelle de sa venue. Jésus avait donc remplacé les uns par les autres. Parfois, on entend que Jésus était juif et que c'est Paul qui a fondé le christianisme, mais c'est particulièrement faux, et on le voit dans notre texte. Marc nous le dit clairement, le christianisme a sa source en Jésus lui-même. Mais ce n'est pas tout. Comme Jésus a été rejeté par sa propre famille, il en a même créé une nouvelle. Maman était juste là, et ses frères étaient là aussi, et ça fait plaisir, vous savez, parfois, quand on a sa famille tout proche, on va pouvoir enfin se reposer. La réponse de Jésus, elle est choquante, absolument choquante. Le Fils de Dieu envoie bouler sa propre mère en disant « Qui sont mes frères? C'est qui ceux-là? Je ne les connais même pas !» On se dit, mais c'est hallucinant. Jésus, lui qui a toujours dit d'aimer ses ennemis, comment il est dur avec sa propre mère et ses frères. Et là, vous avez dans notre texte un moment, comme je l'avais appelé, un moment magique, entre guillemets, où vous voyez Jésus, verset 34, qui porte un regard sur ceux qui étaient assis à côté de lui, un regard plein de compassion. Et si vous aviez étudié Marc, vous verriez qu'il a un même regard très triste, verset 6, auprès de sa famille nationale, un regard de colère. Et là, il a un regard bienveillant envers sa famille. « Voici ma mère et mes frères, dit Jésus, celui qui fait la volonté de Dieu. » Quel incroyable invitation. Jésus rejette sa famille biologique. Le privilège est transféré à d'autres. C'est vraiment, je l'avoue, c'est vraiment choquant. Je ne connais pas le parcours de chacun, mais quel que soit d'ailleurs le rejet de votre famille, quelle que soit la présence où est votre famille, parfois elle peut être bien loin, parfois même elle peut être partie, parfois même vous n'avez peut-être pas de conjoint, vous n'en aurez peut-être jamais. Parfois, vous n'avez même pas d'enfant et vous n'en aurez peut-être pas. Mais Jésus veut être votre frère. Dieu veut être votre père. Et à travers l'Église, il désire vous donner des frères et des sœurs, des mères et des pères. Ça, c'est une invitation grandiose que Jésus veut donner à son nouveau peuple. Jésus nous invite à entrer dans sa famille, avec des relations de famille, même si votre famille est loin ou inexistante, où le secours, la grâce et l'amour sont les valeurs de cette famille, où le pardon a sa place. C'est énorme. Vous n'avez d'ailleurs peut-être jamais reçu l'approbation d'un père ou d'une mère. J'avais même un cousin dans ma famille à qui on a toujours répété que pour réussir dans la vie, il fallait être à la première place, pas la deuxième. Et bien sûr, il n'était pas la première. L'approbation, quand vous faites partie de la famille de Dieu, ça fait partie aussi de cette grâce. Dieu pose un regard bienveillant et plein d'amour sur vous, quel que soit d'ailleurs votre passé. Le lien tissé est extraordinairement fort. L'Église est appelée à vivre des relations de famille où l'on ne se choisit pas ses frères et sœurs, mais on est appelé à les aimer, à les aider, à les secourir, quelles que soient les circonstances. Dans une famille, on s'aime suffisamment pour se dire les choses et pas pour quitter le bateau à la première tempête. Et même si c'est la première fois que vous êtes rentré dans une église et que vous vous dites « je ne suis peut-être pas comme les autres, je n'ai pas fait d'études », vous n'avez pas besoin d'être intellectuel, religieux, cultivé. La seule caractéristique, verset 35, que Jésus vous demande, c'est de faire la volonté de Dieu. Vous voulez savoir si vous faites partie de la famille de Dieu? La famille de Jésus? Il y a un seul critère pour notre texte. Écouter Jésus et lui obéir. Si oui, une nouvelle famille vous attend. Par contre, si tu ne fais pas la volonté de Jésus, si ta vie est marquée par une désobéissance habituelle, assumée, où Jésus ne doit pas se mêler et tu ne veux pas que son règne s'étende, par pitié, ne sois pas comme la famille de Jésus, pas comme cette commission d'enquête parlementaire. Pitié, ne dis pas non plus que tu es protestant, quatrième génération d'évangéliques, croyant, non, famille d'une membre d'une église, de l'EBTM ou de je ne sais quelle famille ou de ne sais quelle formation. Jésus s'en moque éperdument. La seule chose qui compte, c'est pas ton appartenance, c'est d'être avec Jésus, c'est d'être envoyé par Jésus, c'est de faire sa volonté. L'évangile de Marc nous l'a dit au chapitre 1 et au verset 14. Le moment décisif est arrivé. Le règne bienveillant de Dieu est arrivé. Et la seule manière d'y répondre, c'est la repentance, c'est le changement d'attitude et la foi, et la nécessité de croire en cette bonne nouvelle. Ce matin, Jésus nous adresse à chacun cette immense invitation à entrer dans sa famille, qui s'étend toujours plus. Je vous invite à prier. Merci Père, parce que tu as désiré nous adopter dans ta famille. Tu as désiré nous agréger à une grande famille, quels que soient d'ailleurs nos liens biologiques et familiales aujourd'hui et parfois même la séparation quand des décès sont intervenus. On te loue de ce que tu désires que nous puissions vivre des relations où l'amour est la marque de fabrique, où le pardon, la bienveillance sont au cœur de ces relations. Je prie, Seigneur, que tu nous viennes en aide et que chacun puisse être conscient de là où il est réellement et qu'il puisse se rendre compte que toi, Jésus, tu es venu pour les réconcilier avec ton Père. Je prie que cette réalité du pardon soit vécue par un plus grand nombre, Seigneur, ici à Toulouse et dans le monde. Au nom de Christ. Amen.